Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Fractals, Hasard et Finance rassemble et prolonge des travaux de Benoît Mandelbrot consacrés au marché, depuis ses recherches initiales sur les prix des matières premières jusqu'à une réflexion plus large sur le risque. Il ne s'agit ni d'une manuelle de placement ni d'une méthode de prévision boursière. C'est un essai scientifique à forte composante mathématique qui conteste les représentations financières fondées sur des variations régulières, continue et distribuée selon une courbe normale. Mandelbrot soutient que les marchés manifestent au contraire une irrégularité structurelle faite de sauts, de périodes calmes et de turbulences concentrées. La géométrie fractale fournit le langage permettant de décrire cette rugosité à plusieurs échelles de temps. L'ouvrage examine ainsi les liens entre forme fractale, loi statistique à queue épaisse, cyclicité économique et calcul du risque. Son objectif est moins de remplacer un modèle unique par une recette définitive que de montrer pourquoi les hypothèses conventionnelles sous-estiment fréquemment les événements extrêmes et la complexité effective des séries financières. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le hasard sauvage contre l'image rassurante des marchés réguliers. Le point de départ de Mandelbrot est une distinction décisive entre hasard bénin et hasard sauvage. Dans le premier cas, les fluctuations individuelles restent suffisamment limitées pour que les moyennes et les écarts habituels résument utilement le phénomène. Cette vision correspond largement au cadre gaussien employé dans une partie de la théorie financière classique. Dans le second cas, les observations rares mais très grandes ont un poids disproportionné. Une variation exceptionnelle n'est pas une simple anomalie autour d'un comportement normal, elle fait partie du mécanisme statistique pertinent. Pour les cours de marché, Mandelbrot insiste sur les discontinuités et sur la concentration temporelle du risque. De longues séquences peu mouvementées peuvent être interrompues par des épisodes brusques, sans que la moyenne historique suffise à en rendre compte. Cette opposition a une conséquence directe, un modèle qui attribue une probabilité négligeable aux mouvements extrêmes peut sembler satisfaisant durant les périodes ordinaires. Tout en étant gravement trompeur lorsque le risque importe le plus. La critique ne signifie pas que tout est imprévisible ou dépourvu de structure. Elle signifie plutôt que la structure recherchée doit admettre les extrêmes, les ruptures et une hétérogénéité durable de la volatilité. Deuxièmement, les lois de Lévy et le problème des queues épaisses. Pour donner une forme statistique à ce hasard sauvage, Mandelbrot mobilise les lois stables de Pareto et de Lévy en opposition au recours automatique à la loi normale. La différence essentielle porte sur la fréquence relative des grandes variations. Dans une distribution normale, les écarts très éloignés de la moyenne deviennent rapidement presque impossibles. Les distributions à queue épaisse conservent au contraire une probabilité plus importante de mouvements considérables. Cette propriété correspond mieux à l'observation historique, selon laquelle les marchés connaissent des variations fortes beaucoup plus souvent que ne le prédit un modèle gaussien simple. Le choix de telle loi n'est pas un détail technique, il modifie la manière de penser la diversification, les seuils de sécurité et le risque de ruine. Si les extrêmes pèsent davantage, les estimations construites à partir de la variance ou de rendements supposés modérés perdent une part de leur portée. Mandelbrot souligne cependant implicitement une difficulté pratique des modèles plus réalistes peuvent être plus exigeants à estimer et à utiliser. L'ouvrage privilégie donc une correction conceptuelle fondamentale plutôt qu'une promesse de facilité opérationnelle. Il rappelle que la commodité mathématique d'une hypothèse ne constitue pas une preuve de son adéquation aux données financières. Troisièmement, autosimilarité et changement d'échelle dans les séries de prix. La notion de fractal permet à Mandelbrot de relier l'étude des marchés à une géométrie des formes irrégulières. Une courbe de prix paraît accidentée à une échelle quotidienne, horaire ou plus fine, et cette irrégularité ne disparaît pas nécessairement lorsqu'on change des résolutions. Il ne faut pas comprendre cette autosimilarité comme la répétition exacte d'une même figure. Dans le contexte financier, il s'agit plutôt d'une parenté statistique entre comportements observés à plusieurs horizons. Les grands mouvements et les petites fluctuations peuvent relever de règles d'échelle comparables, même si leur amplitude et leur rythme diffèrent. Cette idée contredit l'intuition selon laquelle l'agrégation dans le temps rendrait automatiquement les données lisses et normales. Elle invite à examiner comment les distributions de variations évoluent lorsqu'on passe d'horizon à un autre. La rugosité devient alors une caractéristique mesurable et non un bruit gênant à éliminer. Ce cadre explique aussi pourquoi une analyse limitée à une seule fréquence d'observation risque de manquer une partie de la dynamique. La contribution de Mandelbrot consiste à faire de l'échelle une variable centrale de la finance quantitative. Le marché n'est plus seulement une suite de rendements isolés, mais un objet irrégulier dont la structure doit être étudiée à travers plusieurs niveaux temporels. Quatrièmement, concentration de la volatilité et limite des calculs de risque usuels. Mandelbrot met l'accent sur un fait empirique essentiel, le risque ne se répartit pas uniformément dans le temps. Les fortes variations ont tendance à se concentrer dans certains épisodes, tandis que d'autres périodes demeurent relativement calmes. Cette concentration rend insuffisante l'image d'une succession de chocs indépendants et de même intensité. Elle éclaire pourquoi une estimation fondée sur une période paisible peut donner une impression de sécurité trompeuse. Lorsqu'une crise ou une turbulence survient, les paramètres observés dans le passé récent cessent souvent de représenter l'échelle réelle des pertes possibles. La leçon pratique n'est pas qu'il serait possible d'annoncer exactement la date d'un choc. Elle est qu'il faut concevoir les marges de sécurité et les scénarios de stress en tenant compte de discontinuités plausibles. La gestion du risque doit se préoccuper du comportement des queues, de la dépendance entre phases volatiles et de la fragilité des portefeuilles face aux événements rares. Le livre se distingue ici des guides financiers prescriptifs. Il fournit avant tout une critique des fondations statistiques. Son intérêt est de déplacer la question de la précision apparente des calculs vers leur robustesse. Lorsque les hypothèses de régularité échouent, cette exigence demeure pertinente pour toute méthode qui transforme des données historiques en prévisions de risque. En dernier lieu, cycle non périodique et portée interdisciplinaire de la démarche, l'ouvrage ne réduit pas les marchés à un mécanisme aléatoire sans forme, mais il récuse également l'idée de cycle parfaitement régulier. Mandelbrot s'intéresse à une évolution économique susceptible de présenter des rythmes, des regroupements et des changements d'échelle sans suivre une périodicité mécanique. Cette position est importante car elle évite deux simplifications symétriques, croire que les cycles permettent une prévision horlogère ou croire que l'absence de régularité parfaite interdit toute analyse. Les fractales proposent un langage intermédiaire pour décrire des structures complexes, irrégulières et néanmoins organisées. Cette ambition explique le public visé par le livre. Les économistes y trouvent une remise en cause des modèles de marché trop lisses. Les mathématiciens et physiciens y rencontrent des problèmes de loi d'échelle, de stabilité et de phénomènes discontinus. Les philosophes des sciences peuvent y étudier le rapport entre simplification théorique et observation. La forme même du recueil, couvrant plusieurs décennies de recherche, met en évidence la continuité d'une interrogation plutôt qu'un système clos. Certaines parties peuvent paraître abstraites au lecteur, cherchant des décisions d'investissement immédiates, mais cette abstraction est cohérente avec le projet modifier les catégories utilisées pour penser le hasard, avant de prétendre optimiser des choix dans un environnement instable. En conclusion, Fractals. Hasard et finance s'adressent en priorité au lecteur, disposé à aborder la finance comme un problème de modélisation et non comme un catalogue de stratégies de marché. Des étudiants avancés en économie, finances quantitatives, mathématiques, physique ou gestion des risques y trouveront une source majeure pour interroger les hypothèses de normalité, de continuité et d'indépendance. Les praticiens peuvent aussi en tirer un bénéfice concret. À condition de ne pas y chercher une formule de trading, le livre aide surtout à identifier les angles morts, des mesures de risque trop dépendantes, des données calmes aident. Distribution ordinaire. Sa valeur intellectuelle réside dans la clarté de son déplacement. Les crises et les mouvements extrêmes ne doivent pas être traités comme de simples erreurs marginales, mais comme des éléments possibles de la structure même des marchés. Par rapport aux ouvrages financiers classiques, souvent centrés sur l'équilibre, l'efficience ou l'optimisation de portefeuille, celui de Mandelbrot est plus fondamental et plus transversal. Il relie une critique empirique des cours boursiers à des outils issus de la géométrie fractale et des lois stables. Sa difficulté théorique constitue aussi sa limite pour un lectorat débutant. Pourtant, cette exigence fait sa singularité. Il ne propose pas une certitude artificielle face à l'incertitude, mais un cadre plus vigilant pour comprendre la rugosité, l'échelle et la violence potentielle des phénomènes financiers. Si vous souhaitez soutenir Benoît Mandelbrot, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.